Chapitre 4. La première fois que Médéric, en compagnie de sa mère, était venu, un dimanche, faire visite à M. et Mme Lavaupallière, il avait emporté d'Hortense une assez mauvaise impression. « Ce n'est pas une femme, » dit-il à sa mère en revenant, « c'est un garçon. » Et ce fut elle, avec une naïveté qu'elle se reprocha plus tard, qui s'appliqua à le faire revenir sur ce jugement, en lui démontrant les qualités de finesse de celle en qui il ne voulait voir qu'un garçon. Mais ce fut inutilement. « Tout ce que je peux t'accorder, dit-il, c'est que ce garçon est drôle et malin, original et amusant peut-être, mais pour une femme, jamais de la vie. » Il était d'une entière bonne foi en parlant ainsi, et ses paroles traduisaient autant l'effet qu'elles venaient de produire sur lui que ses idées et ses goûts, car, assez ringalé lui-même, il avait jusque-là demandé aux femmes d'être plantureuses avant tout. Chez lui, c'était parti pris, et il se moquait de ses camarades qui trouvaient des charmes aux femmes maigres. Quels charmes ! Il ne les comprenait pas puisqu'il ne les voyait pas, et c'était sa philosophie de n'admettre que ce que ses yeux pouvaient voir ou ce que ses mains pouvaient toucher. L'invisible, l'au-delà, l'incompréhensible n'existant pas pour lui. Quelle surprise quand, au bout d'une semaine, il s'était aperçu que cette femme maigre, qui n'avait rien, mais absolument rien de ce qu'il avait cru aimer jusqu'à ce jour, s'imposait à son attention, emplissait son souvenir, et s'était si solidement établie en lui qu'il ne pouvait la chasser. « C'est sa drôlerie, » se dit-il. « Évidemment, elle est originale et par là intéressante. » Il y avait donc une drôlerie physique et non simplement d'esprit comme il l'avait cru, c'est-à-dire qu'une femme pouvait être spirituelle par la forme de son nez ou le dessin de sa bouche sans qu'aucune parole sortît de ses lèvres. Cela l'étonna et même le mortifia, car de 15 à 18 ans, il s'était fait les opinions et les principes qui devaient, s'imaginait-il, régler toute sa vie sans avoir à les modifier en rien, ainsi qu'il convient à un caractère ferme, et il se dépitait d'avoir à se démentir à propos de cette maigrichonne. Quoi qu'il en fût, il dut reconnaître que ce garçon était une femme, et même la plus troublante qu'il connût. Près d'elle, il ne la quittait pas des yeux, loin d'elle, il la cherchait, et à chaque instant, il parlait d'elle à tout le monde, à sa mère, à ses camarades de l'étude, à Turlure qu'il interrogeait pour savoir comment s'était fait son premier mariage, son second, quel homme était son premier mari. Mais Turlure, qui ne perdait jamais une occasion de parler, alors surtout qu'il pouvait entrer dans des explications qui prouvaient la sagacité de son esprit d'examen, se montrait très circonspect dans ses réponses. « Femme éminemment intelligente, disait-il, pleine d'originalité, de spontanéité dans les idées, à laquelle il n'en manquait qu'une forte éducation pour être tout à fait supérieure. Il lui eût fallu une direction que le couvent ne donne pas. » Mais quand il avait développé ce thème qu'il allongeait encore par des digressions sur l'instruction des femmes, il en restait là, ou à peu près, sans entrer jamais dans les détails précis que Médéric eût voulu connaître. N'a pas été heureuse avec son premier mari, voilà le certain. Pourquoi ? Ah, pourquoi ? Raison complexe, délicate, qui d'ailleurs tienne dans un mot, Courteuse était un rustre, un brutal, un grossier, et elle était... Elle est ce que vous la voyez. Cette réserve chez un homme qui, d'ordinaire, en avait si peu en parole, ne pouvait que provoquer la curiosité et l'intérêt chez Médéric. Il insista donc, mais alors ce fut Turlure qui s'étonna. « Madame Lavaupallière vous intéresse donc bien ? » dit-il de son air policier. Médéric se troubla. Cependant, il put répondre « Tout ce qui est original ou mystérieux m'intéresse. » « Croyez-vous qu'il y ait quelque chose de mystérieux dans la vie de Madame Lavaupallière ?»« Dans sa vie, je l'ignore. En elle, oui. Certainement, elle n'est pas semblable aux autres femmes, et ma question n'avait d'autre but que de chercher à comprendre les causes de cette dissemblance. »« Trouvez-vous, mon jeune ami, qu'il soit bien sain d'étudier les femmes ?»« Je ne sais pas. » « Justement, je voudrais ne pas vous voir vous attacher à la recherche de ce qu'il peut y avoir ou ne pas y avoir dans celle-là, qui est un peu sphinx. Souvenez-vous que le 5 d'Édipe tuait les imprudents qui tentaient d'expliquer ces énigmes. Mais ces énigmes pouvaient cependant s'expliquer, puisque Édipe devina celle de l'animal aux quatre pieds. Voulez-vous donc condamner Madame la Vaupallière à mort si vous deviniez la sienne et la forcer à se jeter dans les flots comme le sphinx de Thèbes? Cela pourrait-il arriver? Je n'en sais rien, comme vous devez bien le penser, et ne parle qu'au point de vue de la fable. Et moi donc? Alors c'est parfait, et vous m'envoyez enchanté, car je vous répète qu'il est malsain pour les jeunes gens de chercher à étudier les femmes. On pense à elles, on s'occupe d'elles, et un beau jour on se trouve pris. On se passionne, on perd le repos, la tranquillité de l'âme, la sérénité de l'esprit, la gaieté de la vie. Et il faut être gai, car Pline a dit avec une grande raison que la réussite des études est dans la gaieté. Studia hilaritate proveniunt. Et Turlure se félicita d'autant mieux d'avoir donné cette leçon à son jeune ami en l'appuyant sur une maxime latine qui devait se graver dans l'esprit, que le jeune ami ne lui parla plus du sphinx. « Je l'ai arrêté à temps, se dit-il. Ce que c'est que de rencontrer à propos une main au bord du fossé. » Mais comme il ne faisait rien sans en rendre compte à Madame Turlure, il lui communiqua les craintes qu'il avait eues en la consultant sur la question de savoir si elles étaient fondées. Parce que les femmes, si honnêtes qu'elles soient, ont en ce sujet des lumières spéciales qui manquent aux hommes. Et Madame Turlure le gronda d'avoir eu de pareilles idées. « Comment, M. Médéric, qui est un jeune homme charmant, bien élevé, délicat dans ses goûts, honnête dans ses sentiments, pourrait-il s'éprendre de Madame la Vaupallière ?»« Il me semble que la Vaupallière s'est bien épris d'elle. » Monsieur la Vaupallière ne ressemble en rien à Monsieur Médéric. Je n'aurais jamais admis qu'un homme comme toi pût avoir de pareilles idées. Qu'a-t-elle donc pour vous séduire tous? Moi? Oui, toi, toi comme les autres, puisque tu t'imagines que ce brave jeune homme peut être amoureux d'elle. Jamais pareil soupçon ne me serait venu. Il est vrai que nous ne jugeons pas les femmes comme vous et que nous savons les voir telles qu'elles sont. Alors si je me trompe, pourquoi s'occupe-t-il tant d'elle? Parce qu'il est à l'âge où les jeunes gens ont la curiosité de toutes les femmes. Il me semble que ce que tu dis là est contradictoire. En quoi? En ce que, si elle nous séduit tous, comme tu le prétends, ce qui pour moi est parfaitement injuste, elle peut, elle doit séduire aussi M. Artaud. Pas du tout. Parce que vous êtes des vieux et qu'il est un jeune. Avec sa drôlerie, sa bizarrerie, la hardiesse provocante de ses manières, unie à sa retenue d'ingénu, son sourire qui promet tout, elle vous émoustille. Tandis que ses séductions doivent laisser indifférent un honnête jeune homme tel que M. Artaud. Mais il y a du vrai là-dedans, s'écria Turlure, enchanté de ce portrait. Cela paraît judicieux. Et il répéta deux ou trois fois ce mot, qui pour lui constituait un véritable éloge. Si tu le reconnais, tu dois voir que M. Artaud n'a rien à craindre. Il n'est certainement pas de ceux qui se laissent toucher par les apparences de l'ingénuité canaille. Mais c'est très fort ce que tu dis là, s'écria Turlure, de plus en plus charmé de trouver sa femme si judicieuse. Ingénuité canaille, c'est bien là un des côtés apparents de cette nature de femme. Ce qui ne veut pas dire que, dans la réalité, elle soit ingénue et canaille. Oh, bien entendu, mais je crois que dans la vie, c'est beaucoup plus parce qu'elle paraît se promettre que parce qu'elle donne réellement que certaines femmes se font aimer. En tout cas, alors même que je me tromperais, il resterait à prouver que Madame la Vaupallière est disposée à provoquer M. Médéric, et cela, je ne l'admettrai que quand je l'aurai vue. Parfaitement. Si Médéric n'était pas de ceux qui se laissent toucher par l'ingénuité canaille, comme disait Madame Turlure, au moins n'était-il pas de ceux à qui elle fait peur. D'ailleurs, ce qui était canaillerie pour Madame Turlure ne l'était pas pour lui, mais simplement originalité et drôlerie. Elle ne ressemblait en rien aux femmes qu'il avait connues, pas plus qu'à celles qu'il voyait tous les jours, calmes, froides, dignes, insignifiantes ou correctes, et cela était un attrait à ses yeux. qu'elle et son mari eussent été les deux amoureux dont on lui avait parlé, elle lui serait très probablement restée indifférente, car rien ne garde mieux une femme que de savoir qu'elle aime et qu'elle est aimée. Mais ses amoureux, ils ne l'étaient plus si jamais ils l'avaient été, et il n'y avait pas besoin d'être un habile observateur pour s'en apercevoir. 6 mois avant son arrivée à Oissel, une comédienne de Paris, plus connue dans le monde de la galanterie où elle avait fait une assez grosse fortune que dans celui des théâtres, était devenue propriétaire d'un château des bords de la Seine où elle venait de s'installer avec un écuyer de cirque qu'elle allait épouser. Mais la nuit même des noces, il y avait eu querelle violente entre les nouveaux mariés, cris, injures, sévices graves, comme dit la loi, bris d'objets mobiliers, instance en divorce dès le lendemain, et la Vaupalière, qui avait dressé l'acte de vente du château, était devenue le conseil et le notaire de Madame Rosa Mialou. À l'étude, l'éclair racontait, en propos plus ou moins voilés, que le patron ne s'en était pas tenu là et qu'il avait été pris pour consolateur par l'abandonné, plus âgé que lui d'une bonne douzaine d'années. Cela était-il vrai? On n'en savait rien, mais Fauchon n'hésitait pas à l'affirmer en déclarant que cela était très chic et faisait au notariat un honneur qui rejaillissait sur la cléricature. On blague les notaires, c'est peut-être spirituel pour les vaudevillistes, mais en voilà un, choisi par une femme dont on ne contestera pas la compétence, qui réhabilite la corporation. Si cette liaison était réelle, ainsi que semblaient d'ailleurs l'indiquer les fréquentes visites du notaire au château, ses voyages à Rouen et à Paris avec sa cliente, plus fréquents que la surveillance des procès et des affaires de celle-ci ne l'exigeait, Madame la Vaupalière ne devait pas l'ignorer, et par conséquent, il n'était pas déraisonnable de supposer qu'elle aussi accepterait un consolateur. Pourquoi ne tenterait-il pas de le devenir ?